en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Cette prière, on l'a certainement formulée une fois ou l'autre. Et quand on entend les événements qui se passent autour de nous, cette prière fait souvent refait surface. Garde-nous du mal ! La Bible du semeur a traduit « Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Nous sommes sous le choc, n'est-ce pas ? Une fois encore, beaucoup de morts, attentats, pas attentats, revendiqués, pas revendiqués, là n'est pas le problème. Le problème, il est que 84 personnes sont à nouveau décédées sur un acte de folie. Il nous rappelle le 7 janvier 2015, 17 victimes. À Paris, le 9 janvier, toujours à Paris, à l'hypercachère, de nombreuses victimes. Novembre 2015, 129 personnes ont été tuées. Et on se dit, mais ça va s'arrêter quand ? Alors je me suis permis de chercher un petit peu, ne serait-ce qu'au mois de juin 2016. Juin 2016, en Israël, un attentat contre des civils fait 4 morts, 7 blessés. Le 11 juin 2016, en Syrie, un attentat fait 20 morts. Le 12 juin, aux États-Unis, 49 morts, 53 blessés. Le 13 juin 2016, un policier et sa compagne sont tués. Le 17 juin 2016, au Nigeria, dans un village de Kuda, dans l'Adamawa, 18 morts. Au Yémen, 35 morts. Au Liban, 13 morts. En Turquie, 44 morts, 238 blessés. Au Bangladesh, le 1er juillet, 22 morts. Le 3 juillet, en Irak, 300 morts. J'en passe les meilleurs pour arriver à une somme pour le mois de juin et de juillet de 713 morts et 615 blessés, auxquels j'ajoute 300 morts sur les routes, 23 morts dans un accident de train en Italie. Le total est de 1000 morts par violence. Seigneur, délivre-nous du mal! Arrête toutes ces choses autour de moi, protège-moi! N'est-ce pas là notre cri? Ça revient, hein? Seigneur, garde-moi, protège-moi. Dans la prière de Matthieu 6, c'est Jésus qui parle. Il reconnaît quelque chose. Il reconnaît qu'il y a une puissance hostile qui s'en prend particulièrement aux humains. On peut la nier, cette puissance. Ou on peut le croire et tellement y porter attention, intérêt. Moi, ce matin, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le contexte de cette garde que nous implorons de la part de notre Dieu. Nous cherchons la bénédiction. Elle évoque un réconfort. Puisque le mot bénédiction traduit signifie action de bénir. Comment être béni au travers de toutes ces choses? Et que le verbe bénir veut aussi dire du bien. Vous pouvez, à chaque fois que vous dites du bien de quelqu'un, vous le bénissez. Quand vous dites du mal, vous le maudissez. J'aimerais clarifier quelque chose avant d'aller plus loin. J'ai marqué, c'est un liminaire en termes techniques, une définition ou une clarification. Bénir est le fait de Dieu et de ceux qui lui appartiennent. Bénir est le fait de Dieu et de ceux qui lui appartiennent. Maudire est le fait du diable et de tous ceux qui disent du mal et veulent le mal. Dieu ne veut pas le mal de personne. Ça, c'est clair, parce que depuis plus de 20 ans, 25 ans que je suis dans le pastorat, mes amis, ou dans le service en tout cas, j'ai tellement entendu dire des choses, « Oh, Dieu me veut du mal hein. !» Dieu, il veut du mal à personne. Dans le cœur de Dieu, Dieu veut bénir. Et nous, on le blâme de tous les maux. Quand ça va pas, quand il y a des problèmes, quand ça marche pas, Dieu me veut du mal. Mais non, Dieu ne veut du mal à personne. Voilà ce que Dieu a demandé dans Nombre 6, 23 à 27. Si vous voulez suivre avec moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas prévenu le technicien dans les temps, donc il n'y aura pas d'écran. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ce même Dieu, en trois personnes, bénit les croyants de la Nouvelle Alliance. Dans 2 Corinthiens 13, par la bouche de l'apôtre Paul, ou au moins par sa plume, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce, que l'amour, que la bénédiction. L'intention, je le redis, afin que ça soit dans vos têtes au début du message, l'intention profonde du cœur de Dieu, c'est de bénir, pas de maudire. Est-ce que Dieu a quelque chose contre moi ? Est-ce que Dieu aurait de mauvaises intentions ? Dieu a toujours des bonnes intentions. Nous écoutons souvent le diable, le calomniateur de Dieu auprès des hommes, et le calomniateur des croyants devant Dieu. L'ennemi veut salir les intentions de Dieu et celles des rachetés de Dieu. Si nous voulons nous approcher de Dieu avec profit, c'est ce qui a été dit dans Hébreux ce matin, croyons qu'il nous veut du bien. Et attendons-nous à lui dans la foi. Le meilleur moyen d'avancer dans notre vie chrétienne, c'est de croire, premièrement, que Dieu nous aime. Que Dieu nous veut du bien. Et arrêtons de lui donner toutes les mauvaises intentions de notre monde, qui sont les nôtres en fait. On le blâme pour nos échecs. On le blâme pour les mauvais, pour tous les problèmes du monde. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé ces choses ? Est-ce que c'est Dieu qui a péché ? Dans Matthieu 7, dans ce sermon sur la montagne, Jésus dit ceci à partir du verset 7, Matthieu chapitre 7. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant qu'on vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ? À ceux qui lui demandent. Dieu désire répondre favorablement et libéralement avec bon cœur à nos demandes autant qu'elles soient selon sa volonté. Ceux qui sollicitent l'amour, la sagesse, la patience, la persévérance sont certains d'avoir une oreille attentive de Dieu pour de telles requêtes. Parce qu'elles correspondent à la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu patient, miséricordieux, un Dieu d'amour. Est-ce que nous savons qu'il nous écoute, dit 1 Jean 5, 15. Nous savons que nous possédons déjà la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Si on sait que Dieu écoute, alors on sait qu'il va nous donner. Puisque Dieu dit, selon Jacques 1,15, « Donne à tous simplement et sans reproche, quand la demande exprime notre besoin. » Combien il éprouve de tristesse devant le doute qui bloque l'exaucement. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, c'est Jacques 1,5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre, car tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Waouh ! Demandez et doutez, je le demande et je ne l'aurai jamais. Ou Dieu n'est pas capable de me donner ça. Il y a tellement longtemps que je lui demande. Vous demandez la bénédiction ? Vous demandez ce que Dieu cherche ? Demandez-lui résolument. Ne soyez pas celui qui doute. Mais j'aimerais donner un petit bémol, un petit avertissement. Parce que justement, dans le contexte du malheur, dans le contexte de la difficulté, dans notre contexte de notre monde, de notre pèlerinage terrestre, être sous la bénédiction de Dieu n'équivaut pas à couler une vie facile. Être sous la bénédiction de Dieu ne veut pas dire que nous aurons une vie facile. L'histoire de tout le peuple de Dieu que nous lisons dans la Bible, mes amis, est là pour nous instruire. À cause de la vulnérabilité, du fait que nous sommes faibles, notre nature, et aussi de l'adversité du diable. Aaron et ses fils invoquaient tour à tour la bénédiction et la protection. La bénédiction, quand ils disent « garde, qu'il te garde », ça ne veut pas dire qu'il te garde dans sa main, qu'il te mette dans une bulle, mais qu'il te garde dans le contexte de ta vie. On veut toujours se retirer du monde entier, mais comment est-ce que le monde va voir la lumière si la lumière n'est pas là? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, Nombre 6, 24. Plus Dieu bénit, vous imaginez la suite, plus l'adversaire réagit. Plus Dieu bénit, plus l'adversaire est là pour essayer de montrer. S'il faut prier avant la bénédiction, à combien plus forte raison il est nécessaire de prier après la bénédiction. Tout ce que Dieu donne est fait pour nous amener à notre stature parfaite. C'est Éphésiens 4 qui le dit. À la stature parfaite, grandir en maturité. Seigneur, je reconnais, j'ai tellement de choses à apprendre. À être des hommes et des femmes matures, pas des enfants. Si nous restons des enfants toute notre vie, il y a un problème. Mais en parlant de bénédiction, on va regarder dans la première épître de Jacques, dans les versets 2 à 5 et 9 à 15, pour voir quel est le contexte pour obtenir cette bénédiction. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2. Mes frères, tout le monde là, Jacques ? Je vais vite ce matin parce qu'il est déjà midi, donc j'aimerais vous lâcher avant le goûter. Épître de Jacques. Chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a séché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu, ainsi le riche se flétrira dans son entreprise. Heureux l'homme, c'est le verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à tous ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente !» Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Au cours de la lecture, il y a des mots qui sortent. Épreuve, tentation, convoitise, péché. Il y a des verbes. Exposer, supporter, tenter. Le mot tentation comporte un sens large. Il dit mise à l'épreuve. Ou il a un autre sens. Sollicitation à mal faire. Sollicitation à mal faire. Vous rappelez monsieur Serpent et madame Ève ? Vous imaginez une femme qui trouve qu'un serpent c'est beau. Déjà, ma femme, elle n'aurait jamais parlé avec le serpent, elle serait partie. Mais elle n'était pas là au début. Au verset 2, il n'y a pas de doute sur le sens large du terme. La tentation mise à l'épreuve. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Quand on est épuisé, quand on a combattu, quand le diable nous a suffisamment tailladé, c'est souvent qu'on cède. Hein? Bon allez, j'abandonne, je vais le faire. Ou vous savez, ce petit démon qui vient et qui dit « Allez, cool, personne ne te verra. » De toute façon, tout le monde le fait. Tu sais, il y a le frère machin, la sœur truc, elle a fait ça aussi. Toute épreuve est une tentation au doute, au découragement. Mais toute tentation est une épreuve pour notre foi et notre fidélité. Vous avez compris le sens ? Toute épreuve est une tentation au doute. Mais Dieu, ça va durer longtemps ? Comment ça m'arrive, hein ? Encore le frère Jacques, j'aurais compris, le frère Michel, d'accord, mais moi ? Eux, ils sont pas bien, mais moi, je suis bien. J'exagère. Toute épreuve est une tentation au doute et au découragement. Toute tentation est une épreuve pour notre foi et notre fidélité. Dans le texte, la chose extraordinaire, c'est que, avec ces mots qui sont des mots agressifs, des mots qui nous donnent là où finalement on va recevoir la bénédiction, il y a le mot joie, il y a le mot patience, il y a le mot grâce, il y a le mot don. Un don, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Mérite pas. La foi seule nous rend capable d'affronter l'épreuve, de la regarder comme un sujet de joie complète, dit Jacques. Est-ce que nous regardons les épreuves comme un sujet de joie complète ? Que ceux qui le font lèvent la main. Moi, je ne lèverai pas la main. Toujours. Pas toujours, non. Parce que l'épreuve est difficile, mes amis. Quelle qu'elle soit. L'épreuve est difficile. Mais c'est l'endroit où Dieu a choisi d'affiner notre foi, Notre frère parlait tout à l'heure de l'or pur, chauffé. Enlever les impuretés, ça prend du temps. Et c'est passé par des tests, par des épreuves. La foi va au-delà des choses visibles et passagères. Elle se réjouit par anticipation des choses invisibles et éternelles. Si on n'avait que la raison pour passer nos épreuves, on ne les passerait pas, n'est-ce pas? Les jeunes ne passeraient pas leur bac, ils n'auraient pas leurs examens, parce qu'ils ne sont pas prêts. Quand nous affirmons que Dieu veut notre bénédiction, prenons garde de ne pas oublier que le monde dans lequel nous vivons, est le théâtre d'une lutte intense qui se livre dans les airs, dit l'Écriture, entre deux puissances, celle de Dieu et celle du diable. Le prince, Éphésiens 2:2, il dit, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les esprits, dans les fils de la rébellion. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre ces esprits méchants, les dominations sataniques, les puissances malfaisantes, les principautés diaboliques qui règnent dans le monde de ténèbres et qui utilisent les hommes. Cela explique l'origine de tant d'épreuves, de tension. Quelle que soit la puissance de l'adversaire, rôdant comme un lion rugissant, cherchant à dévorer sa proie, sachant ceci. C'est un rappel, et vous le savez très bien. 1 Jean 4:4. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que c'est votre Dieu? Un Dieu qui nous assiste dans les épreuves, qui n'empêche pas l'épreuve. Ça, notre prière, quand on prie cette prière, délivre-nous du mal, c'est en fait qu'on ne veut pas l'épreuve. Alors imaginez, voilà, on a eu récemment la Coupe d'Europe. Imaginez Payet et tous les joueurs de l'équipe de France qui finalement sont dans les vestiaires. C'est l'heure de la finale. On va prendre la demi-finale, c'est mieux, ça c'est mieux terminé. Et puis voilà, le coach est là, il leur parle, Dédé est là, il leur dit, les gars, c'est dans la poche, vous êtes préparés, on y va. Et ce coup, ils regardent tous le coach et ils disent, non, pas aujourd'hui. Non, nous, on veut pas jouer contre cette équipe-là, non. Ils sont trop forts. Vous imaginez? Et nous, chrétiens, on est un peu comme ça. On se prépare, Dieu nous prépare, Dieu nous fortifie, Dieu nous assiste, Dieu nous donne sa force. Et puis on arrive devant l'épreuve. Oh non, non. Non, pas celle-là. Non, donne-moi, je sais pas, moi, une partie de domino, un truc. Mais... C'est incroyable, non? Et c'est comme ça qu'on dit délivre-nous du mal, parce qu'on veut que Dieu enlève le mal. Et qu'on vive chez les bisounours. Tout va bien. Mais ça va pas bien, le monde ne va pas bien. Et Dieu nous a laissés pour que le monde aille bien. Parce que dans nos épreuves, nous témoignons de la force de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de sa grâce. De sa grâce. En Christ, nous sommes victorieux des esprits malins et Dieu nous ordonne de résister avec une foi ferme à notre adversaire, le diable, qui fuira loin de nous, si nous résistons. Satan règne sur le monde de ténèbres, mais non, pas sur les anges de lumière, pas sur nous. Il ne règne pas sur nous, il essaye de nous avoir de toutes les façons. Il a des copains, lui, il a des stratèges, il a des agents commerciaux, il a tout le monde. Mais il ne peut pas régner en nous. Parce que quand nous avons accepté Jésus-Christ, c'est Christ qui règne en nous. Trop de chrétiens oublient ou ignorent que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2,14. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Le croyant lutte à partir de la victoire remportée par Jésus-Christ sur Satan et la mort. et non pas dans le but d'obtenir une victoire. La victoire, elle est acquise, mes amis. J'entends tellement de chrétiens, « Oh, je lutte, je vais avoir une victoire pour Christ. » Mais ce n'est pas la peine, c'est déjà fait. Ce n'est pas la peine. Dieu l'a fait à ta place. Parce que tu n'as pas la force. Satan cherche à nous user par l'épreuve, dans le secret espoir d'exploiter l'avantage que lui donne notre nature pécheresse. Le terrain des convoitises, le terrain des passions. Cela n'est possible qu'au moment où, par négligence, par accident, nous ne regardons plus comme morts au péché et vivant en Christ. C'est Romains 6, 11. Nous sommes morts au péché et vivant en Dieu par Jésus-Christ. Attirés, amorcés par notre propre convoitise, nous a dit le texte tout à l'heure, qui monte au-dedans du cœur corrompu, nous laissons la porte ouverte à Satan, tentateur, qui féconde son complice. À lui, c'est la convoitise. T'as vu ? Tu peux l'avoir. J'ai des moyens. Le processus qui aboutit au péché est la mise en route, la convoitise conçoit et enfante le péché. Quel triste enchaînement. Et tout à l'heure, il était marqué. Et ensuite vient la mort. Nous ne pouvons pas échapper, mes amis, à l'épreuve dont Dieu attend qu'elle concourt à purifier notre foi et à l'affermir. L'épreuve est nécessaire. Mais là, j'ai écrit, mais désagréable, parfois. Dans l'épreuve, la bénédiction consiste à recueillir le fruit que l'Esprit de Dieu veut et peut produire, c'est-à-dire une ressemblance plus grande à l'image de Jésus-Christ. C'est Romains 8, 29 qu'il a dit, et Galates 5, 22. Le but de Satan, lui, il est diamétralement opposé. En harcelant les chrétiens, les croyants, il cherche à exciter la chair, à exacerber les passions, à décupler l'avidité, la cupidité, les désirs. Par là même, il désarme les chrétiens, les divise, et ça il sait le faire. Les rend semblables au monde par l'appétit. Dans cette misérable condition, où bien de chrétiens ne prient même plus, où ils prient mal, dans le but de satisfaire leurs passions, dit Jacques 4, 1, si Dieu permet une telle école, c'est qu'à travers elle, nous apprenons que la chair est faible et que le diable est rusé. Le réformateur Martin Luther avait écrit ceci. Il disait que le diable avait contribué par ses attaques personnelles, ses tentations, à faire de lui un serviteur de Dieu éprouvé. Pas par les victoires, pas par ses messages, pas par sa volonté, par les épreuves. Le contexte de la bénédiction est donc celui d'une bataille, d'une tempête. Deux royaumes, celui de la lumière, celui des ténèbres, c'était mon message le 3 juillet, se disputent nos vies, dont Dieu veut être l'unique Seigneur, l'unique propriétaire. Et pour ça, il a fait tout ce qu'il fallait. Après tout, la prédication de l'Évangile n'a-t-elle pas pour but de faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés, Actes 26, 18. La vraie sagesse. Donner de bon cœur par Dieu à ceux qui la lui demandent consiste d'abord à ne pas reculer devant l'épreuve, mais à savoir aussi souffrir. Cette sagesse nous fait regarder la finalité de l'épreuve, son résultat. Elle nous permet de supporter sans nous plaindre les désagréments, les souffrances, les contrariétés. Nos pères nous châtiaient pour bien peu de jours, comme ils trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, c'est Hébreux 12, et non de joie. mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors, mes amis, peut-être face à tous ces attentats, peut-être face à l'épreuve, peut-être dans votre cœur, vous dites « ça a trop duré ». La bénédiction est lente à venir. Jacques 5, versets 10 et 11 dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne tirez pas de votre situation actuelle ces conclusions hâtives. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Le moment actuel ne vous fascine pas. C'est la fin qui compte. Car personne ne pourra retrancher ni ajouter ce qui participera au caractère immuable que nous aurons dans l'éternité. Romains 8:8, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il dit dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4, versets 17 et 18 « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » On peut souffrir dans notre santé, on peut souffrir de notre situation financière, de notre situation familiale, on peut souffrir de plein de façons, n'est-ce pas? Si nous remettons notre sort à Dieu, si nous l'implorons, et on l'a entendu ce matin, Dieu répond. Il peut élever le frère de condition humble, donner à celui qui a assez pour vivre. Le même Dieu qui ne change pas est le maître souverain de toutes les circonstances. Il peut aussi enlever une part à celui qui, ayant trop, n'a pas su ou n'a pas voulu le servir de ses richesses. Il est investi dans des entreprises éphémères, celui qui n'investit pas en Dieu. Vient un revers imprévu, un retour, et il aura des problèmes, c'est Proverbe 6:6. Pourquoi l'épreuve? Cette question, on aimerait tellement savoir. Dans le livre de Job, au chapitre 1, versets 6 à 12, dans les versets 31-32, on y voit le diable, calomniateur, accusateur, meurtrier, émettre un doute, lancer un défi à Dieu et réclamer un droit quant à la personne de Job et de tous ceux qui lui appartiennent. Or, l'épreuve nous paraîtra moins étrange si on regarde la fin de Job. Le diable travaille dans trois domaines. J'ai presque fini. Le doute. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est le diable, il a toujours le moyen de trouver que, ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Il dit être ton enfant, mais quand même, il joue au loto, hein. N'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'homme de ses mains et de ses troupeaux. Enlève-lui tout ça et il te maudira en face. Le défi. Étends ta main, touche tout ce qui lui appartient et je suis sûr. Jésus dit dans Luc 22, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. En acceptant le défi, nous savons que nous sommes dans les mains de Dieu. Que nous sommes ses enfants. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. En supportant patiemment la tentation, l'épreuve, en refusant d'aider à l'amertume, en comptant sur la rétribution finale, nous donnons une preuve éclatante de l'amour de Dieu. Celui qui est, qui était, qui vient, cet amour est le mobile de votre patience dans le dur exercice de l'épreuve. Ce n'est pas par l'effet d'une forte volonté personnelle, d'une capacité d'endurance hors du commun que vous endurez la tentation, c'est seulement et simplement parce que vous aimez le Seigneur plus que tout. Voilà ce qui fait de vous, en pleine épreuve, un homme et une femme heureux. Voilà ce qui glorifie Dieu et qui vaudra au jour de Christ la couronne de vie que le Seigneur a promise à tous ceux qu'il aime. Que Dieu nous encourage par ses paroles. Savoir que les épreuves, quand on sera au ciel, il n'y en a plus. Mais quand nous serons sur cette terre, l'épreuve sera toujours là. Quelle qu'elle soit, à quel niveau qu'elle soit. Mais nous avons cette assurance que Dieu nous aime, Dieu nous garde et que Dieu nous accompagne. Amen.